On est en train de continuer une étude sur les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. On est en train de parler de plusieurs signes que Jésus, ses apôtres, les prophètes, dans l'Apocalypse, comme du début de la création, il y a eu toutes sortes de révélations qui ont été données qui parlaient à propos du retour de Jésus. Puis on veut regarder un survol. C'est sûr qu'on verra pas tous les signes que Jésus, les apôtres et tout le monde ont annoncé, ce que la Bible enseigne, sauf qu'on va en regarder plusieurs. On a déjà vu quelques-uns quand on a parlé qu'il y aurait une levée de faux prophètes, il y aurait des guerres, des soulèvements, la destruction de Jérusalem, des tremblements de terre, des famines, des pestes, des phénomènes terribles. C'est tous des signes qui devaient s'accomplir avant que Jésus revienne. Mais Jésus n'est pas encore revenu, puis ça fait 2000 ans que ça a été annoncé. Tous ces signes-là, on a vu à travers les temps, ils se sont tous accomplis. C'est des signes que tout le monde a pu voir dans ces signes-là qu'on a vus. Puis dans les autres aussi qu'on va voir, la majorité de tous ces signes-là ont toujours pu être vus dans le temps des disciples. Puis le Seigneur, dans ce sens-là, comme je vous ai dit aussi, que le fait de voir les signes, ça devra nous dire, je me prépare, Jésus revient bientôt, j'ai hâte qu'il revienne. Puis là, je vois des signes, là, ça m'avertit, afin d'être toujours prêt pour comme réveiller, stimuler, nous encourager, qu'on puisse comprendre aussi là-dedans le chronomètre de Dieu, parce que Dieu, il a parfaitement paramétré chacun de ces événements-là comme qu'il l'avait décidé d'avance. Puis il nous l'a annoncé d'avance afin qu'on puisse se préparer. Aujourd'hui, on va continuer en regardant dans Matthieu 24, le verset 9. Jésus y annonce de grandes persécutions contre ses disciples. Puis ça, il faut être prêt à cela. Puis déjà, sur la terre, si on est vraiment conscient de ce qui se passe un peu partout, on sait qu'il y a déjà beaucoup de pays où il y a aucune tolérance pour les chrétiens. Les gens se font persécuter, se font mettre en prison, mais ça va tout être annoncé d'avance. Certains pays sont plus tolérants, il n'y a pas de persécution, mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Jésus a dit à ses disciples, suite à tout un paquet d'événements, « Alors, on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. » Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voyez-vous, dans ces passages-là, ça ne parle pas d'un futur de prospérité, de bénédiction et d'abondance pour tout le monde. Oui, Dieu veut qu'on ait une vie heureuse sur cette terre, mais la priorité, c'est qu'on marche dans la foi, malgré les différentes situations dans lesquelles on peut affronter. Puis, tous les chrétiens, si on pose des questions à chacun des enfants de Dieu, tout le monde peut dire « oui, c'est vrai, parce qu'on a des tourments, on est persécuté, des fois on est mis de côté, on est jugé injustement. Puis il y a des chrétiens qui se font tuer, assassiner dans certains pays, se font couper la tête. Puis ça nous parle d'une haine qui est là contre les chrétiens, une haine qu'on peut pas toujours expliquer, parce que un enfant de Dieu, en théorie, il est supposé être toujours une bonne personne, qui fait le bien, qui aide les autres, puis qui prie pour les autres, puis dans sa société est un exemple, un modèle d'obéissance face à la loi, puis qu'il y aura une haine qui s'élève contre les chrétiens, c'est annoncé d'avance. Puis tout ça, Jésus dit, c'est à cause de mon nom. À cause qu'on sert Jésus, à cause qu'on est en Jésus, c'est à cause du nom de Jésus qui dérange. Puis quand on est en Jésus, parce qu'on a donné notre vie au Seigneur, mais on a une communion avec le Seigneur, puis le Saint-Esprit est là, puis les gens ne se sentent pas bien dans la présence du Saint-Esprit, puis ils seraient portés à nous haïr sans qu'il y ait de raison. Mais ça fait partie du cheminement qu'un chrétien doit vivre. Mais on est averti qu'on aurait ce genre de choses. Si Jésus nous a averti de cela, c'est parce qu'il voulait qu'on soit prévenu puis qu'on se prépare en conséquence. L'évangile de Marc, qui ajoute dans ce passage-là, parce que les passages sont en parallèle, Marc au chapitre 9, Jésus a dit, « Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Voyez-vous, il y a une autre raison pourquoi que les chrétiens seraient livrés publiquement aux tribunaux, etc., battus de verge, comme ça a été depuis le début des disciples. Les premiers disciples, il y en a qui ont été lapidés, il y en a qui ont été torturés, qui ont été mis à mort dans des arènes de lions, qui ont été crucifiés la tête par en bas, qui ont été empaillés, empalés, toutes sortes de choses difficiles, rejetées, chassées loin des villes, puis on fuit dans les montagnes, puis il y avait une persécution massive contre les chrétiens depuis que Jésus est venu. Pas tous les chrétiens, mais beaucoup de chrétiens ont vécu ce genre d'épreuve-là, mais ça faisait partie de choses que Jésus avait annoncées. Dans ce passage-là, ça nous dit « Il nous livrera aux tribunaux, battus de verge dans les synagogues, comparaître devant des gouverneurs, devant les rois. » Si on lit les Actes des apôtres, on voit là-dedans comment est-ce que l'apôtre Paul a été lui-même une victime de ce genre de comportement-là. Il a été devant tribunaux, il a été battu de verge, il a été lapidé, il a comparu devant des gouverneurs, devant les rois, même devant César. Mais ça nous dit pourquoi il était là. Parce que des fois, il y a des raisons. Tant qu'on porte le nom de Jésus, ça suscite la haine contre nous. Mais, il dit, c'est à cause de moi pour leur servir de témoignage. Voyez-vous, Dieu il a un plan quand les chrétiens souffrent. Les gens passent à travers de situations difficiles, mais Dieu, il n'a pas perdu le contrôle. Il sert de cela pour témoigner de son nom parmi les nations. Puis, si un chrétien fait face à ce genre de choses-là, mais il doit se dire, Jésus m'a prévenu, puis quand que ça va arriver, mais je suis prête, là, je vais laisser le Seigneur me donner parole, puis je vais parler de lui. C'est ça qui est le but, afin qu'on serve de témoignage. Dieu sert de notre témoignage pour parler aux gens qui nous entourent. Luc, dans l'évangile de Luc, lui, il ajoute, dans les mêmes contextes, dans Luc 21, 12 à 15, il dit, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. On vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Puis là, il nous dit quelque chose de plus là-dedans, quelque chose de bénissant. Il dit, « Mettez donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Voyez-vous, quand on disait qu'on aurait des persécutions en tant que chrétiens, puis que les chrétiens, il y en a beaucoup dans le monde qui vivent ce genre de persécution-là, puis qui ont eu l'occasion de parler de Jésus, puis d'annoncer la parole de Dieu parmi les gouverneurs, les rois. Mais Jésus nous dit, « Préméditez pas votre défense. Laissez-vous inspirer. Le Saint-Esprit va vous donner des paroles qui vont confondre vos adversaires. Des paroles qui sont les paroles de Dieu dans cet événement-là. Dieu, il est avec nous quand on sera mettons en prison ou qu'on sera livré pour être battu de verge dans des pays, s'ils le font encore. Qu'est-ce qu'on s'inquiète des fois? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? On n'a pas à s'inquiéter, nous sommes avertis, Jésus est avec nous, il contrôle parfaitement la situation. Je ne dis pas qu'on n'aura pas aucune souffrance, mais il va être avec nous, puis il va nous inspirer pour nous donner les paroles qu'on aura à dire. Il faut faire confiance que le Seigneur est avec nous, puis il n'est pas juste là pendant que ça va bien, il va l'être aussi au moment où ça ira moins bien. Jésus nous a enseigné le pourquoi qu'il y a tant de haine contre les chrétiens. Il en parle dans parole, dans Jean chapitre 15, versets 18 et 19. Ça nous dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous parle clairement la raison pourquoi que le monde peut nous haïr. Quand tu vis dans le monde t'aime. Le monde, bras-dessus, on prend une bière ensemble, puis on a du plaisir. Je dis pas qu'il y a jamais de chicane, mais on a du plaisir quand même. Le monde, on s'accepte les uns les autres. Mais quand tu as donné ta vie au Seigneur, t'appartiens au Seigneur, tu fais plus partie de ce monde. Oui, tu as encore les deux pieds dans le monde, mais spirituellement, tu es un habitant du royaume des cieux. Le royaume de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi, puis tu es envoyé dans ce monde portant le Saint-Esprit pour amener la parole de Dieu. Automatiquement, on ne vivra plus comme le reste du monde, puis le monde, mais quand ils vont entendre ce qu'on a à leur dire sur Jésus, se sanctifier, être pardonné, qu'ils sont pécheurs, comme nous étions pécheurs, tout cela, le monde ne veut pas entendre ces choses-là, en majorité. Je dis pas que tout le monde va être comme cela, parce qu'il y en a qui reçoivent la parole de Dieu. Mais il dit, oubliez pas que le monde m'a haï avant vous. Puis s'ils vous haïssent, parce que là, maintenant, je suis en vous. Ça crée dans les gens une haine contre les chrétiens. Jésus nous avait déjà enseigné ces choses-là. Puis il nous dit aussi, dans Jean 15, le verset 20 à 21, ça nous dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront mourir, ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Voyez-vous, le fait qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu, parce que quand tu connais Dieu, puis tu as été reçu sa grâce d'être pardonné de tes péchés, tu as reçu le Saint-Esprit, ta vie change, puis après ça, tu commences à aimer les chrétiens. Du moins, tu es supposé. T'es supposé d'aimer les chrétiens. Le Saint-Esprit veut nous conduire à s'aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Puis c'est ça qui tient l'Église du Seigneur. C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais dit, rappelez-vous que vous n'êtes pas plus grand que le maître. Si on persécutait le maître, ils vont nous persécuter. S'ils ont reçu la parole du maître, ils vont recevoir aussi notre parole. Fait qu'il y a des gens qui vont recevoir notre parole, mais il y en a d'autres qui vont nous haïr. Ça explique pourquoi que les gens ont de la haine contre les chrétiens, même s'ils s'en rendent pas compte? Faut pas oublier que nous sommes en guerre, spirituellement parlant. Les chrétiens sont en guerre contre le prince de ce monde. Le diable mène le monde. Même si Dieu mène encore plus haut le monde, dans les choses qu'il a annoncées, mais le diable, il y a un certain contrôle sur les gens, puis il manipule les gens parce que les gens ne le savent pas, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Fait que les gens sont comme dominés par l'esprit de ce monde, cet esprit-là, qui est le diable et ses démons, bien, ils font en sorte que les chrétiens se font persécuter. On voit ça dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, puis contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce passage-là, ça nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas réellement contre les humains qu'on doit lutter. Les humains ne comprennent même pas ce qui arrive, pourquoi qu'ils nous haïssent, pourquoi qu'ils nous persécutent, pourquoi qu'ils rient des chrétiens, pourquoi qu'ils se moquent de ce qu'on dit. Mais ils s'en rendent pas compte, mais ils sont menés, comme je disais tantôt, par le prince de ce monde. Il dit, notre combat, il est contre les puissances démoniaques qui sont en arrière des gens, puis que les gens sont manipulés, contrôlés. Ils s'en rendent pas compte, mais on essaye de leur dire, de donner leur vie au Seigneur afin qu'ils soient sortis des ténèbres, puis qu'ils rentrent dans le royaume de la lumière, puis qu'ils puissent avoir les yeux ouverts en lisant la Bible, puis comprendre ce qui leur arrivait pour s'en dégager. C'est ça qui est le plan de Dieu. Mais il y a un combat spirituel contre les gens qui reçoivent pas la parole de Dieu. Le diable, il sait qu'il reste peu de temps. Parce qu'il a déjà été jugé à la croix. Quand Jésus a ressuscité d'entre les morts, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu le diable, il a vaincu sa force dans laquelle il se confiait. Le diable se confie dans le péché pour garder le monde dans le péché, puis les garder sous sa domination. Mais en Jésus, on peut être pardonné de nos péchés. Fait que le diable, il n'a plus de contrôle pour quelqu'un qui veut s'en sortir. On peut être pardonné, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, même si tu aurais fait un pacte avec le diable pour donner ta vie au diable, pour obtenir des richesses ou de la prospérité, tu peux, dans une simple prière, demander l'aide au Seigneur en confessant que tu es pécheur, puis en confessant que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, il va te pardonner, puis il va te délivrer de son emprise. Le diable n'aura plus d'emprise sur toi. Tu vas peut-être perdre ces bonus qu'il t'accordait, mais ces bonus temporaires vont amener les gens dans les temps de feu pour l'éternité. Ça vaut pas le coup. Le mieux, c'est de servir le Seigneur, puis de marcher avec lui pour le reste de notre vie. Le diable, il sait qu'il n'a plus grand temps, comme je vous en ai tantôt, puis il est en colère contre Dieu, puis il fait tout pour combattre ce que Dieu veut faire. Puis il combat les chrétiens. On voit ça dans la parole, dans l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 17. Ça nous parle d'une image d'un dragon qui poursuivait la femme qui avait enfanté Jésus, qui est le peuple juif, pour les persécuter, mais ils ont quand même eu une protection pendant les siècles pour les protéger de la destruction totale. Puis ça nous dit que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça veut dire à ceux qui gardent les commandements de Dieu puis qui ont le témoignage de Jésus. Voyez-vous, la vision de cette vision de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, nous parle que le diable est en colère, il sait qu'il n'y a plus grand temps, il a été précipité sur la terre, puis là, il court après les chrétiens, à ceux qui gardent les commandements de Dieu puis qui ont le témoignage de Jésus. C'est nous, ceux qui veulent garder la parole de Dieu, mettre en pratique ses commandements, puis de parler de Jésus. C'est nous. C'est pour ça qu'il y a une guerre spirituelle contre nous, puis que le monde nous haït, puis que Jésus nous a dit qu'on serait haïs de toutes les nations, persécutés, jetés en prison, passés devant des tribunaux, passés devant des gouverneurs ou des rois, puis de toutes sortes d'épreuves dues à cause du nom de Jésus. À cause que son nom est sur nous. Puis il faut pas rester surpris si ça nous arrive un jour. Il faut se dire, je suis un enfant de Dieu, Dieu est avec moi, je vais passer à travers avec lui, puis, ben, il adviendra, qu'est-ce qui adviendra? C'est Dieu qui décide pour chacun quelle est la fin de notre vie. Jésus, pour lui, il a été accroché par le monde, puis il a été crucifié, puis il a été tué, assassiné. Les apôtres, c'était la même chose. Beaucoup de disciples, c'était la même chose. Puis s'ils n'ont pas reçu la parole du Seigneur, ils ne recevront pas la nôtre, mais il faut quand même l'annoncer. Puis il nous dit, je suis avec vous, je vais vous inspirer. Puis je suis sûr qu'il va nous donner aussi la grâce qu'il nous faut pour passer à travers ces moments difficiles qu'on aura traversés. Je dis pas un amen dans le sens, amen, c'est ça qu'on veut. On veut pas nécessairement le mal pour les chrétiens. On veut la paix, puis on prie pour la paix dans notre pays. On veut que les gens marchent dans l'amour puis dans la bénédiction de Dieu. Mais on sait qu'on est en guerre, puis on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver comme conséquence dans une guerre. Puis le développement de cette guerre spirituelle, comme je vous parle, on est en guerre contre le diable, le résultat de cela va amener certains chrétiens à abandonner le Seigneur, puis à apostasier dans leur foi. Une apostasie, là, c'est l'abandon de la foi. Puis la racine de ce mot-là, c'est comme si on parle d'une lettre de divorce. Les gens vont divorcer de Dieu, ils vont s'éloigner de Dieu, vont rejeter Dieu de leur vie, parce que ça va être trop laid, ça va être trop laid sur la terre, ça va être trop grave. Les gens, soit par la peur, soit par les... ça va faire mal, ils vont vouloir abandonner le Seigneur. Je dis pas que tout le monde va l'abandonner, c'est pas vrai, mais il va en avoir des gens qui vont apostasier dû à cette guerre spirituelle-là, ce conflit-là, cette pression-là que l'ennemi fait en utilisant les gens contre les chrétiens. Puis Jésus nous a averti que ça arrivera avant qu'ils reviennent. Ça fait partie d'un des signes qui est annoncé d'avance. Jésus lui-même nous dit de sa bouche dans Matthieu 24, les versets 10 et 11. Il parle aux chrétiens, là, il parle à des enfants de Dieu, il parle aux apôtres, puis c'est aux disciples qui étaient là. Il dit, « Alors aussi plusieurs succomberont. » Succomber, ça veut dire abandonner, lâcher, se relâcher, se laisser aller. Dire, « Ah, moi, c'est correct, je lâche tout, puis je suis le monde, je retourne dans le monde, ils vont renier Jésus. » Puis il y en a qui l'ont déjà fait depuis le début, des gens qui ont renié Jésus avant de mourir, puis ils sont morts pareil, mais en ayant renié Jésus, quelle catastrophe pour leur vie. Ça nous dit, alors, c'est Jésus qui parle, plusieurs succomberont, ils se trahiront. Voyez-vous, il va y avoir comme même une persécution à l'intérieur de l'Église, de ceux qui ont succombé, qui ont abandonné leur foi, qui ont abandonné le combat, puis ils vont même se revirer contre les autres, puis commencer à trahir les autres. Puis ça, la trahison contre les autres chrétiens, c'est un autre signe dans lequel on sait que ça va arriver avant que Jésus revienne. La trahison, c'est d'être contre l'autre, puis de le trahir, c'est de parler contre lui, de le dénoncer. Moi, je vois que la trahison, quand tu embarques dans les calomnies, les médisances, puis des calomnies dans le but de détruire la réputation d'un autre, c'est une trahison. C'est pas de la loyauté. C'est pas de marcher ensemble. C'est de marcher un contre l'autre. Puis à ce niveau-là, la trahison est déjà là. Comment est-ce qu'il y a d'églises puis de pasteurs qui font la guerre aux autres pasteurs avec des combats d'épée devant tout le monde? On peut voir ça sur Facebook. Puis dans ces sites-là, puis on veut pas voir ça, là, réellement. Puis les gens réalisent pas qu'ils sont en train de montrer aux autres qui sont un mauvais témoignage, puis qui sont en train de trahir les autres frères et sœurs, au lieu de chercher à s'entraider, puis à se relever, puis à se bénir, les gens se frappent, puis s'insultent, puis se disent toutes sortes de mots gras que Jésus a dit lui-même, parce que si on traite notre frère de raca, on mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Nos frères et sœurs en Jésus, que c'est à cause que les gens, s'ils sont rendus comme cela, c'est parce qu'ils sont déjà en train de succomber. Jésus a dit, ils succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Wow! La haine dans les chrétiens, ça fait partie d'être un signe d'avant-coureur du retour de Jésus. Ça finit pas là. Ça dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Si vous me suivez, là, puis si vous suivez Matthieu, là, ça dit que les gens vont succomber, ils vont se trahir, vont saillir, puis ils vont devenir faux prophètes. Parce qu'une personne qui a succombé puis qui trahit les autres, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté de prêcher. Continue à prêcher, mais prêche contre des points qui sont contre la parole de Dieu. Il va prêcher de la haine contre le gouvernement, de la rébellion, de la méchanceté. On se révolte, on casse tout, on crie, on chiale. Toutes des affaires que Dieu dit de pas faire, parce que c'est les œuvres de la chair. Jésus nous dit de prier pour celui qui nous fait du mal. Enfin, si le gouvernement nous fera du mal, il nous dit de prier pour lui. Mais quand on prêche des faussetés, des choses sont contraires à l'enseignement de la Bible, on est déclaré par Jésus des faux prophètes. Des personnes qui ont succombé, puis que là, ils ont commencé à se trahir entre chrétiens, puis à se haïr. C'est pas de Dieu. Les gens, s'il y a des gens qui se sentent dans cette situation-là, faut se repentir, puis revenir à la sainte doctrine, qui est l'amour du prochain, puis le pardon, puis la réconciliation, l'entraide, de se bénir, prier pour notre gouvernement. Il n'y a aucune place dans la Bible qui nous parle, dans le Nouveau Testament, de se rebeller contre les autorités. Au contraire, ça nous dit de nous soumettre aux autorités, car il n'y a aucune autorité qui n'a pas été établie là par Dieu. Je dis pas qu'ils sont toujours parfaits et qu'ils sont justes en tout point. S'ils font des injustices, il y aura à rendre compte. Mais ces rôles-là ont été placés par Dieu, puis les chrétiens sont appelés à se soumettre. Dieu regarde les gens pour voir si on se soumet. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Marc, lui, ajoute dans le même contexte, parce que tous les passages s'accumulent pour faire ajouter l'ampleur dans le sujet, dans Marc 13, versets 12 et 13, il dit, « Le frère livrera son frère à la mort. » Wow! Un frère qui livre son frère à la mort. C'est même encore plus que juste se trahir puis de s'haïr. C'est de le dénoncer au point qu'il se fasse tuer. Puis ça va aussi même jusque dans les familles, regardez bien ça, et le père, son enfant, ça veut dire qu'ils vont avoir une division même dans la famille. Puis Jésus l'a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, il est venu apporter l'épée. Il dit le père contre le fils, la mère contre la fille, des divisions d'infamie. Pourquoi? Parce que lui, ce que Jésus amène, c'est pas reçu par tout le monde. Mais Jésus voudrait que tout le monde le suive, mais c'est pas tout le monde qui croit dans son message. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Ils les feront mourir. Être matricide puis patricide, l'apôtre Paul en a parlé dans le Nouveau Testament, des gens qui assassinent leurs parents. Mais ça sera des choses qui vont se vivre avant le retour de Jésus. Puis au verset 13, il nous dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voyez-vous, il y en a qui vont succomber, ils vont haïr, ils vont se trahir, ils vont se livrer à la mort, ils vont prendre le mauvais chemin, ils vont tout perdre ce que Dieu voulait lui donner. Mais à ceux qui persistent, il nous dit de résister, puis de persévérer jusqu'à la fin, malgré toutes ces souffrances-là. Jésus qui nous dit ça. Le Seigneur nous demande de persévérer jusqu'à la fin, de ne pas abandonner la course, de continuer malgré l'opposition, parce que les récompenses vont être grandes rendues de l'autre bord. Luc lui mentionne que plusieurs chrétiens seront mis à mort. Dans Luc 21, les versets 16 et 17, « Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. » Et voyez comment est-ce que ça va être laid dans les familles. La persécution, là, regardez dans les pays musulmans, quelqu'un accepte le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Souvent, cette personne-là est rejetée de sa famille, puis c'est arrivé souvent qu'il y en a qui ont été lapidés, ils ont été tués, à cause qu'ils partageaient plus la même foi que les autres. Ça peut arriver dans n'importe quel pays, ce genre de situation-là, des guerres entre les religions. À travers les siècles, il y en a eu des guerres, des religions, quand il y avait l'Église catholique qui faisait des croisades pour supposément convertir les chrétiens ou les gens qui n'avaient pas de foi, ou de la foi dans d'autres choses. Puis c'était des guerres, ils massacraient des peuples entiers. C'était-tu de Dieu? Pas du tout. Ça fait partie de l'accomplissement de toutes les prophéties qui doivent arriver avant le retour de Jésus. Puis il va en avoir d'autres d'ici à la fin. Vous allez le voir tantôt dans certains passages. Fait que Luc, il nous dit, ils feront mourir plusieurs d'entre vous, puis il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Dans l'Apocalypse, au chapitre 13, le verset 7, ça nous donne encore un aperçu d'une guerre, parce que comme je l'ai mentionné un petit peu, je n'ai pas donné encore tous les détails, mais je vais en venir un peu plus tard, qu'il va venir un gouvernement mondial qui va prendre le contrôle de la planète, puis ça s'en vient très bientôt, où ce qui va numéroter tout le monde avec un code spécial qu'il va avoir dans notre main ou dans notre front. Puis on ne pourra pas acheter ni vendre sans avoir ce système-là. Puis ce gouvernement mondial-là va s'opposer à toute forme de religion, à tout ce qu'on appelle Dieu puis ce qu'on adore. Puis lui-même va se proclamer Dieu. Ça va être une guerre comme une religion qui se proclame à Dieu, qui essayait de détruire tous les autres pendant des millénaires. Les 2000 ans qu'il y a eu d'histoire, il y a eu des guerres par des religions, mais il va en avoir un gouvernement mondial, tout juste à la fin, dans lequel il va persécuter les chrétiens. Alors regardez bien dans le passage d'Apocalypse, au chapitre 13, le verset 7. « Et il lui fut donné, à ce personnage-là, à ce royaume-là, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Voyez-vous, c'est un gouvernement mondial-là qui va s'élever, puis on en parle couramment du gouvernement mondial. Tous les États en parlent, parce qu'il y a une banque mondiale, il va y avoir aussi un gouvernement mondial. Tous les pays sont endettés à ce gouvernement-là, et quand le crash va arriver à cause... Il va en avoir un, là, les pays sont surendettés, puis ils continuent à s'endetter, puis là, il va arriver un crash économique, puis on va tomber dans les mains du gouvernement mondial. Il va contrôler l'humanité, puis il va avoir un contrôle établi avec la marque de la bête. Puis ce personnage-là va faire la guerre aux saints, puis il va les vaincre. Il va avoir une guerre contre les chrétiens, contre tout ce qu'on appelle... Pas juste les chrétiens, là, parce qu'ils vont avoir une guerre contre toutes les religions, mais pour nous, c'est mentionné qu'il va y avoir une guerre permise par Dieu pour la persécution contre les chrétiens. On est en train de regarder, en continuant ces idées-là, dans Luc Luc y dit à l'Église que par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Dans Luc 21, versets 18 et 19, qui est encore dans les mêmes contextes, Jésus nous dit, « Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. » Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Comment que ça peut arriver, cela, qu'il ne se perde pas un cheveu de notre tête et on se met à mort? C'est parce qu'un chrétien, même s'il se fait couper la tête, il va ressusciter et il va avoir tous ses cheveux. On n'a pas à craindre rien. Il va tous nous ressusciter, puis on va être pleinement en pleine santé rendu l'autre bord. On ne perdra même pas un cheveu de notre tête. Mais il nous dit dans notre vie présente, par notre persévérance, vous sauverez vos âmes. Voyez-vous l'idée de la persévérance? Persévérer, c'est dans le contexte de l'amas d'épreuves, puis de combats, puis de souffrances que les chrétiens vont avoir à vivre avant le retour de Jésus. Il dit, faut que tu aies la foi en Jésus, premièrement, pour être sauvé. Tu marches avec le Seigneur. Mais il faut aussi que tu aies la persévérance de persévérer jusqu'à la fin, à pas perdre ta couronne, afin de pas perdre ton salut. Faut que si tu renies Jésus, celui qui me renie va être renié. Celui qui me confesse, Jésus va nous confesser devant son Père qui est dans les cieux. Mais on a tout à gagner de suivre Jésus malgré l'opposition. Amen. Matthieu, après avoir dit que plusieurs succomberont, il dit que certains chrétiens deviendront des faux prophètes. Je vous l'ai dit tantôt dans Matthieu 24 au chapitre 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront puis séduiront beaucoup de gens. Parce qu'ils ont abandonné la foi, ils continuent à prêcher, mais ils prêchent des choses qui sont contre la sainte doctrine. Puis là, ça passe bien beau parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont suivre ces faux prophètes-là. La Bible nous en parle que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons, des enseignements qui sont pas bibliques, puis des gens qui séduisent les autres par leur manière d'exprimer. Oh, c'est pas décrit de réellement de main. Oh, ça veut pas vraiment dire ça. Oh, c'était dans ce temps-là. Mais ça, c'est toutes des faussetés. La Bible est en cause 100% d'actualité, puis elle doit être appliquée exactement comme qu'elle a été enseignée. On doit persévérer dans ce qui est écrit. On a à persévérer dans ce qui est écrit. Parce que le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Tout va s'accomplir comme c'était dit. C'est la parole de Dieu. Tous les enseignements de chemin à suivre en tant que chrétien, on doit, notre morale, notre mode de vie, notre code d'éthique, tout ce qui est enseigné comme ce sont des commandements du Seigneur. Puis Jésus dit, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole, puis mon Père t'aimera. C'est de même que ça marche. Puis regardez, quand je dis que les gens vont succomber, c'est Matthieu qui dit ça, que les gens vont succomber, ils vont se trahir, ils vont s'haïr, puis là il dit qu'il va y avoir des faux prophètes qui vont s'élever du milieu des chrétiens. Puis Jésus n'en parle encore dans Matthieu 24, juste dans ce texte-là, au verset 12 et 13, c'est la suite qu'il y a plusieurs faux prophètes. Puis il nous explique que dû à l'augmentation du péché parmi les chrétiens, mais l'amour de Dieu puis de sa parole, l'amour de la vérité, mais elle va se refroidir. C'est ça qui se passe présentement dans l'Église. Ça dit, le Seigneur nous avertit qu'il est essentiel qu'on persévère jusqu'à la fin pour être sauvé. Alors regardez bien Matthieu 24, le verset 12 et 13, ça dit, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Dans ce verset-là, ça parle à des chrétiens parce que la charité fait partie du fruit de l'Esprit. C'est l'amour produit par Dieu en nous. Puis parce que le péché augmente, l'amour est plus là. Parce que l'amour est plus là, le monde commence à s'haïr, à se trahir, à se livrer les uns les autres, à se démolir, à se frapper. C'est le résultat que l'amour de Dieu est plus là dans l'Église. Il y a des divisions dans le corps de Christ. Jésus, dans son plan, dans Jean au chapitre 17, il dit que nous, le peuple de Dieu, afin qu'il soit un comme nous, nous sommes un. Jésus avait une relation, il était un avec son Père, puis il voulait qu'on soit un ensemble avec lui, avec son Père. C'est pas ça qui se passe, les églises s'entredéchirent. Si vous voyez une église, un pasteur qui prêche des choses contre les autres, qui passe son temps à prêcher les choses contre les autres églises évangéliques, changez d'église. C'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est l'homme, puis c'est les esprits en arrière de cet homme-là. La Bible nous dit de s'aimer les uns les autres. Je dis pas qu'on approuve tout ce qui se passe ailleurs. On peut dénoncer des choses, mais on n'est pas là pour se déchirer puis se détruire. On est là pour enseigner la vérité, enseigner les vraies affaires. Puis là, le péché va augmenter dans l'Église avec tout ce qui se passe, là. L'écuménisme, c'est du péché de s'unir avec des religions qui n'ont même pas rapport avec la sainte doctrine, puis c'est des religions d'idolâtrie. Que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois une autre religion, Dieu n'a jamais demandé ça. Dans la parole, ça nous dit, si quelqu'un n'apporte pas la parole, la sainte doctrine, ne lui dites même pas salut. C'est pas une question de qu'on l'aime pas, on l'aime au contraire, mais on dénonce, on enseigne, puis on explique c'est quoi qui est vrai, mais c'est pas notre frère parce qu'il a dit telle et telle chose, là, non, c'est pas de même que ça marche. On est frère entre ceux qui marchent dans la vérité. Mais il y a tout un autre sujet à prêcher dans cela, j'en ai déjà parlé, mais un jour, si Dieu le veut, je vais en reparler. Il dit, le péché va s'accroître. Regardez les églises qui acceptent les mariages homosexuels. C'est du péché, c'est écrit dans la Bible. Même si les gens, ils se disent, c'est pas grave, faut être ouvert, faut s'accepter. Je suis d'accord que on vit puis on laisse vivre. Mais est-ce qu'on doit dire que c'est nos frères puis qu'on veut faire la même chose aussi? Pas du tout. On veut suivre ce qui est écrit. Dans Romains, c'est très clair. Puis dans Galates, les œuvres de la chair, c'est bien écrit. Puis un chrétien peut pas s'associer avec ces genres de comportements-là. Je les condamne pas, mais c'est la Bible qui en parle. Puis je suis là pour expliquer ce que la Bible dit. Puis je les aime. J'aime tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut aimer tout le monde. Mais il faut savoir discerner ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Les autres, Dieu s'arrange avec eux autres. Puis on doit le dire tout simplement comme cela. Mais dans le passage de Matthieu, chapitre 24, il dit, « Parce que l'iniquité va s'accroître, il va avoir la charité du plus grand nombre se refroidira. » Un refroidissement dans l'Église. Du plus grand nombre. Ça nous parle d'une quantité, grosse quantité de personnes qui vont se refroidir dans le Seigneur parce qu'ils vivent dans le péché. Mais ça nous dit encore, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il ne faut pas être de ceux qui embarquent dans ce genre de comportement-là. Il faut être des gens qui marchent en contact avec le Seigneur, puis qui veulent fuir le péché, qui résistent au péché, puis qu'on veut être rempli de l'amour de Dieu. Amen. Ça, là, cet abandon de la foi-là, ça s'appelle de l'apostasie, comme je vous disais tantôt. C'est l'abandon de la foi, l'abandon de l'amour de Dieu, l'abandon de la parole de Dieu. On tasse la Bible pour pas avoir de points contre les autres, puis on marche bras-dessus avec tout le monde. L'humanisme fait pas partie du plan de Dieu. Faut enseigner la vérité basée sur les versets de la Bible. Ça sert à rien de dire « Seigneur, Seigneur » si on ne fait pas ce qu'il dit. On voit ça dans Matthieu, chapitre 7. La Bible nous avertit de ne pas être étonné que du milieu chrétien puisse s'élever des faux enseignants, des gens qui vont prêcher des faussetés. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 18 et 19, ça nous dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, ça c'est celui que je vous parlais tantôt, puis qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Déjà, dans ce temps-là, il y avait déjà plusieurs personnes qui s'élevaient contre Jésus. Il dit, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire que c'est la majorité de ces antéchrists-là sont sortis du milieu du peuple de Dieu. Des gens qui étaient des gens sauvés, qui marchaient avec le Saint-Esprit, ils étaient au milieu du peuple de Dieu. Puis pour une raison ou pour une autre, ils succombent, puis après ça, ils commencent à vivre charnellement en trahissant, haïssant, livrant les autres, puis en se battant, puis en prêchant des faussetés. Ils deviennent des faux prophètes. Puis Jean, il en avait parlé là-dedans en disant qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. car s'il eût été des nôtres, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Voyez-vous, il dit très clairement, « Tous ne sont pas des nôtres. » C'est pas à cause que quelqu'un parle de Jésus à quelque part, que le mot Jésus dans sa bouche qui fait automatiquement partie des nôtres. Pas du tout. On n'a pas, si les personnes n'annoncent pas la sainte doctrine, font pas partie des nôtres. S'ils ne demeurent pas dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, font pas partie des nôtres. Il n'y a aucune évolution qui doit être acceptée dans les doctrines, des changements, qu'un tel annonce quelque chose, lui décide que c'est cela. S'il y a des versets qui disent le contraire, c'est les versets qu'il faut suivre. Amen. Je vous laisse un dernier passage en vous disant que l'apostasie dans l'Église nous conduira à un autre signe majeur, avant-coureur du retour du Seigneur. Et c'est l'apparition d'un dictateur mondial qui est nommé l'homme du péché, le fils de la perdition. Cette apostasie-là, l'abandon de la foi, puis le refroidissement de l'Église, qu'on est en train de vivre présentement, où ce que des grands prédicateurs de la parole de Dieu qui sont rendus œcuméniques, puis qui disent de leur bouche que toutes les religions sauvent, c'est des faux prophètes. Ils ont peut-être été parmi les nôtres pendant un bout, mais là, ils sont plus des nôtres. La doctrine est fausse. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu, il y en a un seul, puis c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre manière que d'être sauvé. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Tous ceux qui prêchent le contraire de cela, c'est des faux prophètes. Peu importe comment ce qu'ils s'appellent, peu importe comment ce qu'ils étaient grands dans l'Église auparavant, s'il est rendu qu'il dit des faussetés, c'est rendu un faux prophète, ils sont sortis du milieu de nous, comme c'est écrit dans 1 Jean. Mais le passage que je veux en venir, à cause que l'apostasie s'installe dans l'Église, puis qu'il y a un refroidissement dans l'Église, ça va permettre d'accomplir une autre prophétie qui est l'apparition de l'homme impie, de l'antéchrist, de celui qui va s'élever et qui va faire ce trouble-là pendant son règne de 3 ans et demi. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets de 1 à 4, ça nous parle directement un passage par l'apôtre Paul, qui nous prophétise certains événements, puis il nous parle exactement du retour de Jésus dans ce passage-là. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, ça c'est l'enlèvement, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, puis de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce que dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, il y avait du monde quand j'ai une inspiration, le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, puis il partait des fausses doctrines en disant que le règne de Jésus t'a déjà établi. Il y en a aujourd'hui qui prêchent la même chose, qui disent qu'on est dans le règne de 1000 ans présentement, que le règne du Seigneur est déjà là. Il dit, laissez-vous pas séduire par ces choses-là, ni vous laisser troubler, c'est pas vrai. Jésus pas encore venu. On le voit-tu? Parce que mec, quand ils reviennent, tout le monde va le voir. Tout le monde le verra que ça dit dans la Bible. Puis ils vont en subir les conséquences en plus. Quand il va revenir, ça va être pour l'enlèvement, notre réunion avec lui. Puis il y en a qui disent c'est déjà accompli. Ça veut dire si l'enlèvement a déjà été accompli, on ne peut pas être sauvé. Si ça voulait dire que Jésus est déjà revenu, puis je ne sais pas où ce qui est rendu, puis que là, on ne pourra pas rentrer parce que l'enlèvement de la première résurrection a déjà eu lieu. On continue au verset 3, il dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. » C'est ce que je vous disais, il fallait que ce signe-là s'accomplisse. L'apostasie doit s'installer dans l'Église. Les gens qui abandonnent la foi, des gens qui vivent tellement dans le péché, tellement contraires à la parole de Dieu, qu'ils ne marchent plus dans l'amour de Dieu. Le péché mène leur vie. Parce qu'ils ne soumettent pas, ils n'acceptent pas. C'est comme si les gens n'aiment plus ça, la Bible. Ils ne veulent plus la lire, ils ne veulent plus savoir ce qu'il y a dedans, ils ne veulent pas entendre parler de la Bible. Ils veulent juste entendre des choses agréables qui flattent les oreilles. Puis ça, c'est écrit dans un autre passage que les gens, dans les derniers temps, vont aimer des choses agréables, des choses qui flattent les oreilles. Puis s'ils ne l'ont pas, bien, ils vont changer de pasteur. C'est ça qui est écrit dans les mots qui est écrit dans ce texte-là. Mais ici, ça nous dit qu'il faut qu'en premier arrive une apostasie. On est en train de la vivre, l'apostasie. Autant que je crois qu'il va y avoir un réveil de beaucoup de gens, mais autant que je crois aussi qu'il va y avoir une apostasie dans les chrétiens, des gens qui vont abandonner la sainte doctrine. Puis ça nous dit qu'il faut qu'on ait vu en premier l'apostasie. Puis après ça, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça veut dire qu'avant que Jésus revienne, puis notre rassemblement avec lui, faut qu'on ait vu d'abord l'apostasie, puis il faut qu'on ait vu l'homme du péché, l'adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, puis qui va se proclamer lui-même Dieu. Il faut qu'on ait vu ce personnage-là avant l'enlèvement. Avant notre rassemblement avec lui, il dit, laissez-vous pas troubler par des faux discoureurs, des gens qui prêchent des faussetés, des faux prophètes. Ça, c'est un adversaire qui va s'élever, au verset 4, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, puis il va se proclamer lui-même Dieu. Faut qu'en tant que chrétien, avant de voir le retour de Jésus, faut qu'on ait vu l'apostasie, puis je crois qu'elle est déjà commencée, puis il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie, l'adversaire, qui va être l'adversaire qui va se faire anéantir par l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, puis qui va se faire détruire par le feu qui va sortir de sa bouche. Ça, on voit ça dans un autre passage, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Tout ça pour dire, y a-t-il encore des signes qui doivent s'accomplir? Oui, il y en a. Il y en a beaucoup qui sont déjà tout accomplis, mais il en manque très peu de signes. Je vais en reparler de d'autres signes dans les autres semaines à venir, mais pour le moment, aujourd'hui, ce qu'on a à retenir, c'est Jésus revient bientôt, faut être prête. On est presque tous les signes qu'on a vus, à part de voir l'homme impie, là, on ne l'a pas encore vu s'installer, ça s'en vient très, très, très bientôt, puis le contrôle mondial aussi. Il en parle partout de recevoir un système numérique qui va nous contrôler. Bien, pas contrôler, mais il dit ça pour qu'on puisse être identifié, puis commencer à acheter puis vendre avec un système spécial qui va sortir. Il en commence à en parler partout. Mais ça va s'installer, on peut pas l'arrêter, ce système-là, puis on n'aura pas le choix qu'une fois que ça va arriver, que les chrétiens vont le refuser. Parce qu'il y a des avertissements à ce côté-là, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Pour le moment, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que si votre vie n'est pas encore en règle devant Dieu, si vous n'avez pas encore accepté Jésus pour être pardonné de vos péchés, puis vous engagez, pas juste l'accepter, vous engager à le suivre et à le servir, à devenir son disciple, puis pas juste pour 10 minutes, pour le reste de votre vie, à marcher avec le Seigneur, afin d'être sauvé. C'est important qu'on marche comme cela. On accepte le Seigneur, on persévère dans la foi jusqu'à la fin. C'est de même qu'on va être sauvé. Puis si vous êtes prêts, je vais vous donner l'occasion d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel, afin que vous puissiez être sauvés. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, parce que Dieu y est présent. Puis t'as pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique où ce qui prêche la sainte doctrine, le plus tôt possible que tu le pourras. Va aussi sur mon site publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement. pour faire de toi un disciple. C'est la grâce que je vous souhaite de pouvoir recevoir son pardon et être sauvé. Faire